Ma maman m'a cousu sur ma blouse d'écolier l'étoile juive, l'étoile jaune, sur laquelle il y avait marqué « juif ».
Résister à l'oubli. Un parcours de mémoire proposé par les élèves de première laboratoire contrôle qualité du lycée des Sardières.
Bonjour, je m'appelle Alexandre.
Bonjour, je m'appelle Nathan.
Avec mon camarade, nous allons vous présenter le camp de Drancy, camp d'internement et de transit de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors Alexandre, c'est où Drancy et c'est quoi ?
Drancy est une ville de Seine-Saint-Denis, près de Paris.
Dans les années 30, l'Office public de l'habitat y bâtit la cité de la Muette. Cette cité comprend une dizaine d'immeubles destinés à offrir aux classes populaires de banlieue confort, moderne et hygiène.
Les bâtiments ne seront jamais finis. Dès la défaite française en 1940, l'ensemble immobilier va servir de camp de rassemblement puis d'internement des Juifs. Nous avons rencontré Alix Quéré, coordinatrice des activités pédagogiques au mémorial de Drancy.
Aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu entre 70 et 80 000 personnes qui ont été internées à Drancy. 80% d'entre elles ont été déportées.
Qu'y avait-il avant le camp ?
Le bâtiment qui a servi de camp a été construit à partir de 1931. Avant que ça ne devienne un camp d'internement pour les Juifs, ça a été, au moment de la déclaration de guerre, un camp pour les ressortissants de pays ennemis et les personnes soupçonnées d'être des espions. Et ensuite, à partir de l'occupation allemande, donc dès juillet 1940, un camp pour les prisonniers de guerre, majoritairement français et britanniques, avant leur transfert vers des stalags en Allemagne.
Quelles ont été les personnes les plus déportées entre les femmes, les enfants et les hommes ?
Donc il y a eu 76 000 personnes déportées de France, parmi lesquelles 11 400 enfants et adolescents. Et ensuite, hommes et femmes, peut-être un petit peu plus proportionnellement d'hommes que de femmes, mais on est à peu près sur une équivalence pour les 65 000 personnes adultes déportées.
Quelles sont les conditions de vie au camp de Drancy ?
Alors, les conditions, elles sont très dures, puisque matériellement, dans les premiers temps, le camp n'est pas prêt à accueillir autant de monde, il y a beaucoup d'improvisation. Par la suite, ça s'améliore un petit peu, mais il faut imaginer que c'est un camp avec un manque de nourriture, des conditions d'hygiène très dures, un manque de couchage, et les conditions psychologiques sont également très rudes pour les internés qui espèrent leur libération et qui vivent dans l'angoisse d'une déportation prochaine.
Quelles sont les destinations après Drancy pour les personnes internées ?
Alors, l'immense majorité des personnes qui sont sorties du camp de Drancy ont été déportées. Et sur 76 000 juifs déportés de France, 70 000 ont été déportés vers le camp d'Auschwitz-Birkenau.
Y a-t-il eu des évasions ?
Oui, donc il y a un historien qui s'appelle Didier Eppelbaum qui a travaillé sur le sujet. Il a trouvé qu'il y avait eu 130 personnes qui avaient réussi à s'évader du camp par divers moyens. Et à côté de ça, le plus gros projet d'évasion collective, ça a été le tunnel qui a été creusé à partir de septembre 1943. Mais malheureusement, le projet n'a jamais abouti.
Merci à Alix Quéré du mémorial de Drancy. Le camp entre en fonction en 1940. Il est composé de grands immeubles en forme de U et d'une grande cour de béton de 8000 mètres carrés.
En juillet 1940, l'ensemble est réquisitionné par l'armée allemande. La cité va servir de camp de détention provisoire pour les prisonniers de guerre français et anglais.
Le bâtiment se prête facilement à la transformation en camp d'internement. Construit sur 4 étages autour d'une cour d'environ 200 mètres de long sur 40 mètres de large, il est alors entouré de 2 rangées de barbelés, d'un chemin de ronde et de tours de surveillance.
Drancy, c'est 63 000 juifs, polonais, roumains, italiens, dont des français et parisiens, déportés à partir de la première rafle par les Allemands en août 1941. Les prisonniers sont internés dans ces immeubles dans de mauvaises conditions de vie, surveillés par plus de 2000 policiers. Impossible donc de prendre la fuite.
Le 12 décembre 1941, un détachement allemand dirigé par Theodor Danker, le chef de service des affaires juives, vient chercher plus de 50 juifs comme otages. Ils seront tous fusillés. C'est le début des exécutions.
La première rafle, c'est la rafle du billet vert.
En mai 1941, à Paris, plus de 6000 juifs étrangers reçoivent une convocation imprimée sur un papier de couleur verte. Ce billet vert les invite à se présenter le 14 mai dans divers lieux de rassemblement pour examen de situation.
En vrai, ces personnes sont fichées pour être ensuite déportées. Les 3700 juifs arrêtés sont emmenés à la gare d'Austerlitz dans des autobus spéciaux, encadrés par des policiers français, puis internés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande dans le Loiret.
Ils y resteront plus d'un an, puis seront déportés directement au camp d'Auschwitz-Birkenau.
Les conditions sont rudes. De la soupe et des morceaux de pain composaient les repas. Les chambres, dans lesquelles s'entassaient de 50 à 60 prisonniers, étaient toutes en piteux état. Les risques de maladie et de contagion étaient très élevés. Les hommes et les femmes ne travaillaient pas. Et les enfants jouaient ensemble dans la grande cour.
Le 22 juin 1942 est la date de la première déportation à partir de Drancy. C'est à ce moment-là que le camp est nommé camp de transit.
Le 16 juillet 1942 débute la rafle du Veldiv, une des plus grandes rafles de l'histoire. Des hommes, des femmes et des enfants sont concernés. Cette rafle est organisée par des policiers sous l'autorité du gouvernement de Vichy.
Les Juifs, à partir de 6 ans, sont tous dans l'obligation de porter une étoile jaune dont le but est d'isoler la population juive et de faciliter les arrestations.
Les personnes raflées sont entassées dans le vélodrome d'hiver devenu l'antichambre de la mort. Ils ne possèdent ni eau ni nourriture sous une forte chaleur.
On est en plein mois de juillet.
La plupart des gens sont déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau ou dans d'autres camps en Pologne ou en Allemagne.
Au moment de cette seconde rafle, près de 13 000 juifs, dont 4 000 enfants de moins de 16 ans, sont déportés au camp d'Auschwitz, d'où seulement une dizaine reviendront.
Le dernier convoi au départ de Drancy à destination d'Auschwitz part le 31 juillet 1944. Le 18 août 1944, 1467 prisonniers sont libérés du camp de Drancy après l'arrivée de la Croix-Rouge.
Nathan, aujourd'hui Drancy, c'est devenu quoi ?
Depuis 1946, les miradors et les barbelés ont été retirés. En 2001, le site est reconnu comme monument historique et, depuis cette date, 500 personnes y ont leur logement. Ce sont des personnes en situation financière critique ayant besoin d'un logement rapidement. Les tours et les bars ont été détruites en 1976.
Drancy aujourd'hui est un lieu de mémoire. Un des wagons à bestiaux ayant servi pour la déportation était placé devant le mémorial. En voyant ce wagon, j'ai ressenti comme de l'insécurité, de la tristesse et de la peur aussi. Comme si les âmes de ces gens n'étaient pas parties. Comme s'il voulait nous dire quelque chose.
Le mémorial de la Shoah à Drancy est un lieu de médiation qui permet de transmettre au public les événements historiques qui se sont déroulés sur le site. On peut le visiter seul ou en groupe. Quand nous l'avons visité, je m'y suis imaginé les miradors, les gens qui ont été déportés, la vie dans le camp, les barbelés, les scènes de fusillade. J'ai ressenti comme si tout ça n'avait jamais disparu, comme si cela allait bientôt revenir.
Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne journée. Vous pouvez retrouver toutes nos chroniques sur le site radio-b.fr, à la rubrique Les Ateliers. À bientôt sur Radio B.
Ma maman m'a cousu sur ma blouse d'écolier l'étoile juive, l'étoile jaune, sur laquelle il y avait marqué « juif ».
Résister à l'oubli. Un parcours de mémoire proposé par les élèves de première laboratoire contrôle qualité du lycée des Sardières. À retrouver en podcast sur le site de Radio B, radio-b.fr, dans la rubrique « Les ateliers ».